L'art du théâtre de Sarah Bernhardt. Deuxième partie. Les qualités morales nécessaires aux comédiens.
Le rôle des comédiens.
Le rôle du comédien est devenu de plus en plus considérable à travers les transformations de l'art dramatique. Le théâtre antique, comme l'opéra moderne, mouvait de grandes masses. Les foules y menaient une action soutenue. Les qualités personnelles n'y prenaient par suite qu'une valeur secondaire. On se rend compte que, dans les premiers drames grecs, les individualités étaient presque noyées dans le cœur. Mais, au fur et à mesure que les dramaturges s'attachèrent davantage à l'analyse des sentiments, à l'étude de l'âme humaine, à la peinture des passions, l'amour, la haine, la vengeance, la cupidité, l'art de l'acteur se développa, exigea plus d'études, devint plus complexe et moins accessible. Plus évolue la tragédie ou la comédie, qui demeure séparée jusqu'à Shakespeare, et pour l'Europe cela dure jusqu'à l'avènement du romantisme, et plus s'accentue la valeur personnelle des interprètes. La profession d'acteur se détache de tout autre. Dans l'Antiquité, tout citoyen d'Athènes ou de Corinthe pouvait être appelé à figurer Prométhée, Xerxès ou Jupiter. Plus près de nous, Shakespeare et Molière, qui jouent eux-mêmes leurs pièces, apparaissent déjà comme de glorieuses exceptions. L'artiste dramatique de notre époque n'est plus qu'artiste, et sa tâche est assez grande, assez malaisée, pour requérir toutes ses forces. Il est vrai que depuis quelque temps, le théâtre tend à remettre les foules sur la scène. Il se préoccupe de peindre les misères sociales, d'exprimer des sentiments collectifs. Et l'on pourrait supposer que l'acteur y serait moins incité à montrer ses qualités propres. Un exemple de ses œuvres nouvelles est Les Tisserands de Gérard Hauptmann. Mais l'auteur contemporain, comme encore Ibsen dans L'ennemi du peuple, ou Björnson dans Au-delà des forces, prend soin de laisser à chaque homme ses traits particuliers. Et le rôle de l'acteur, au lieu d'être facilité, n'exige que plus de réflexion et de recherche, car il doit à la fois rendre ses émotions propres et participer à l'âme collective. Il est donc permis de conclure que plus l'art du dramaturge se perfectionne, et plus il impose de travail à l'artiste dramatique qui entend se maintenir au même plan. On pourrait être surpris que les âges modernes citent tant de comédiens et de tragédiens de premier ordre, alors que les âges anciens ont peine à énumérer quelques talents exceptionnels. Mais c'est tout simplement parce que ces talents exceptionnels n'existaient pas ou n'avaient point de quoi se donner carrière. À notre époque, la valeur propre de la pièce est assurément pour beaucoup dans l'accueil que lui réserve le public. Mais la part de l'acteur est à peine moins grande que celle du scénario ou du mode de le traiter. Si l'on confie d'excellents rôles à de mauvais acteurs, il se peut fort bien que la comédie, malgré tous ses mérites, soit sifflée ou retirée des affiches. Des œuvres qui ont ému, secoué et merveillé des générations laissent le public insensible et même hostile si elles ne rencontrent pas des interprètes convenables. Le Cid, Polyeucte, Tartuffe, Andromaque,
ne seront que ridicules,
malgré toutes leurs beautés littéraires et leur puissante peinture des passions, si les rôles sont confiés à des incapables. Et l'inverse n'est pas entièrement exact. Une très mauvaise tragédie, un drame déplorable, remis à des artistes de premier ordre, n'ont jamais tenu longtemps l'affiche. Mais une œuvre médiocre ira, les exemples sont nombreux, jusqu'à la 100e représentation et au-delà, si elle est servie par des interprètes de large envergure. Il en est des comédiens comme de ces virtuoses musicaux qui rendront célèbres par leur prestigieux talent des morceaux à peine dignes d'être entendus. On ne saurait donc trop rehausser la valeur de ceux qui assument un rôle dans le drame moderne. Il ne suffit pas à un auteur d'avoir composé une comédie de haute portée littéraire ou de fine psychologie. Encore faut-il qu'il rencontre des interprètes appropriés et que ceux-ci réunissent les qualités multiples et rares qui font le grand comédien. Pour être tout à fait vrai, l'on serait en droit d'affirmer que les artistes dramatiques de premier plan ne sont pas plus nombreux que les dramaturges hors ligne. L'instruction. Si l'on recherche quelle est la première qualité du comédien, ou mieux, son devoir primordial, on conclura que c'est l'instruction. Certes, il est bon que l'artiste ait une imagination, même une puissante capacité d'invention. Il faut que sa fantaisie se joue librement, qu'il ne se sente pas gêné dans l'expansion de sa nature. L'art exclut nécessairement tout ce qui est guindé et rigide. Mais rien ne supplée à l'étude des hommes et des temps. l'on ne forge point le caractère de César ou celui d'Hamlet ou celui d'Auguste. Si l'on ignore tout de l'histoire, si l'on ne sait point replacer les personnages dans leur milieu, si l'on est incapable de les animer des sentiments qui furent ceux de leur époque, de leur génération, de leur caste, de leur parti même, l'on ne sera jamais qu'un acteur secondaire. La chose avait moins d'importance sans doute au grand siècle, lorsque la couleur locale était systématiquement bannie et que le choix des costumes était tenu pour secondaire. Le peu de souci qu'on avait pour la vérité historique se trahissait d'ailleurs par le langage même qu'on prêtait aux personnages, et les musulmans de Racine dans Bajazet, ou les juifs d'Athalie, ou les grecs d'Iphigénie, pouvaient sans inconvénient paraître en gens de cour. Les connaissances qui sont exigées aujourd'hui de nos comédiens semblaient alors intempestives ou inutiles. Et c'est précisément parce que notre époque, notre public, se montrent moins conciliants et plus portés à ridiculiser un artiste mal doté du sens de l'histoire que la formation professionnelle de l'acteur requiert infiniment plus de travail. Il faut donc que le comédien se familiarise avec tout le passé de l'humanité et remarquez que ses recherches ne sont pas une sinécure. Ce qu'on attend de lui, ce n'est pas seulement une claire notion des faits et des hommes, c'est l'intelligence des mœurs, des usages, des passions des différents peuples et des différents moments. Il est certain que l'amour ne se manifeste pas à tous les âges sous les mêmes formes, que les expressions de la haine varient aussi de siècle en siècle et de peuple en peuple. Bien plus, les différents groupements sociaux ont leurs caractéristiques qui leur sont propres, et de même que Molière n'a pas prêté le même langage à Alceste qu'à Mascarille, à Elvire qu'à Dorine, de même il faut que les attitudes, les gestes, tout le jeu extérieur de l'acteur reflète avec exactitude les sentiments des personnages. Or, comment incarner ces sentiments si l'on n'a pas puisé dans les livres pour le passé, dans le grand courant de la vie pour le présent, les indications qui seront ensuite coordonnées, systématisées et qui se fondent harmonieusement dans la mimique, dans la diction, dans l'ensemble de la représentation des personnes? Ainsi, dès le premier instant, rien n'apparaît plus malaisé, plus laborieux que la composition d'un rôle. Jouer un empereur ou un ouvrier, une grande mondaine ou une châtelaine d'ancien régime, n'est point le fait de tous, et sans doute une documentation hâtive précédant immédiatement la première répétition n'aurait qu'une valeur dérisoire et précaire. Seule une instruction foncière, acquise de bonne heure, capable de déployer toutes ses ressources à un moment déterminé et de replonger le comédien dans la plénitude d'existence du sujet qu'il figure, du temps où il évolue, permettra à l'interprète de se dresser à la hauteur de toutes ses obligations. Le comédien doit être, sinon un savant, un érudit, du moins ce qu'on appelait autrefois un honnête homme, c'est-à-dire qu'il ne saurait être inférieur en connaissances acquises à la moyenne de l'humanité. Remarquez que tout individu appartient à un milieu social, qu'à moins d'extraordinaires déchéances ou d'exceptionnelles fortunes, il n'en sortira pas, qu'il y est en quelque sorte rivé pour la vie. Seul le comédien passe de l'extrême abjection à l'extrême splendeur, de la pire des misères à la plus somptueuse des opulences, de l'époque des Grecs à celle de l'Inquisition ou à la nôtre. Il exprimera tour à tour la superstition d'un Agamemnon, le fanatisme d'un duc d'Albe ou la colère sociale de l'ouvrier en grève. Mais à côté des enseignements empruntés aux livres, il est tenu de regarder, d'observer sans cesse, et le fameux fauteuil de Molière demeure le meilleur des symboles. Que l'artiste traverse en curieux toutes les professions, toutes les couches de la société, qu'il tâche de s'éduquer sur toutes les coutumes des peuples exotiques, qu'il concentre en un mot, dans son œuvre, toute l'humanité présente et toute l'humanité future. La besogne est ardue, et pourtant, il n'en est pas de plus capitale.
Le choix du rôle. Certes, le comédien n'est pas toujours libre de choisir son rôle.
De s'adapter au personnage qui convient le mieux à ses propres qualités dans l'œuvre qu'on distribuera. À moins qu'il ne soit hors de pair et que son génie ne lui confère des prérogatives d'exception, il est tenu d'accepter la place qu'on lui assigne. Mais dans la mesure de ses forces, il doit tâcher d'incarner une figure qui ne soit point disproportionnée à ses moyens. S'il est vrai qu'il n'y ait pas de petit rôle, qu'un comédien puisse tirer de bons effets d'une création épisodique, et qu'à la scène ne règne pas la même hiérarchie que dans la vie, chacun doit connaître sa valeur, son fort et son faible, pour s'exprimer vulgairement.
tel qui excelle dans Othello
sera déplorable dans le bourgeois gentilhomme. Ce n'est point que la distinction des genres doive subsister intacte, que la comédie doive être séparée de la tragédie ou du drame par une barrière infranchissable, et qu'il faille être esclave des catégories littéraires. Mais Othello et le bourgeois gentilhomme exigent des qualités différentes qui peuvent fort bien ne pas se rencontrer dans le même homme. Si la devise de la sagesse « connais-toi toi-même » apparaît judicieuse dans toutes les conjonctures de la vie, c'est surtout à l'acteur qu'elle s'impose. On a toujours tort de forcer son talent, de s'attribuer des mérites qu'on ne saurait cumuler avec d'autres mérites d'un ordre souvent contraire. La diction, la stature, le regard, le geste ont dans le succès d'un comédien, dans le développement de sa carrière, une action prépondérante. Il y aurait présomption de sa part à passer outre au commandement de sa nature, aux conditions qui le prédisposent à certains emplois et lui interdisent certains autres. En faisant intervenir la volonté, les modifications qu'elle peut comporter, le comédien tiendra donc un grand compte de cet avertissement. Et avant d'accepter tel ou tel personnage, il s'interrogera sincèrement. Il se demandera « Me convient-il ? » Et en l'incarnant, ne vais-je pas me heurter à d'insurmontables difficultés ? Et ici encore l'instruction, les notions du milieu historique ou social, l'analyse des passions à exprimer, apparaissent comme des éléments essentiels. La volonté. Pour tout homme, la volonté est une condition fondamentale du succès. Pour le comédien, elle est une condition à laquelle toutes les autres se subordonnent. Comme dans cet art, le travail est de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute, comme il faut que sans relâche, les ressources de l'intelligence soient tendues vers l'étude ou vers l'observation, les caractères timides, mous, indécis ou paresseux n'y ont que faire. De grands talents naturels peuvent être mis en échec par l'absence de volonté. C'est par la volonté qu'on améliorera sa diction, qu'on perfectionnera son geste, qu'on surexcitera sa sensibilité, qu'on suffira aux innombrables obligations matérielles qui sont celles du comédien. Quelque excellente que soit sa mémoire originelle, il lui faudra la développer, l'assouplir par un labeur constant. S'il se laisse éprouver, découragé, rebuté par les premiers échecs, s'il ne fait pas de prodigieux efforts sur lui-même pour surmonter les déboires inséparables de toute vie, pour se transformer au gré des situations et des temps, il est voué à la défaite finale. Faut-il à ce sujet citer les conseils que me donnait un jour Madeleine Brohan ? Les injustices de la vie quotidienne m'avaient révolté, et moi, dont on peut dire que je n'ai jamais manqué de volonté, je me décourageais et me plaignais. « Ma pauvre chérie, me dit la grande artiste que j'aimais infiniment, ma pauvre chérie, tu ne peux rien y faire. Tu es originale sans le vouloir, tu as une effroyable crinière rebelle et frisée par la nature, ta sveltesse est exagérée, tu possèdes dans ton gosier une harpe naturelle. Tout cela fait de toi un être à part, ce qui est un crime de lèse banalité. Ceci pour ton physique et voilà pour ton moral. Tu ne peux cacher ta pensée et courber l'échine. Tu n'acceptes ni hypocrisie ni compromission. » Ce qui est un crime de lèse société. Comment veux-tu, dans ces conditions, ne pas éveiller la jalousie, froisser les susceptibilités, exciter les rancunes? Si tu te désespères de ces attaques, tu es perdu, car tu seras sans force pour lutter. En ce cas, je te conseille de brosser tes cheveux, de les enduire d'huile, afin de les rendre aussi plats que ceux du Corse, et encore non, car lui, Napoléon, les avait si plats que c'en était original. Tiens, plats comme ceux de Prudhon. Je te conseille aussi d'engraisser un peu et de te faire quelques trous dans la voix. Tu ne gêneras plus personne. Mais si tu veux demeurer toi, ma chérie, prépare-toi à monter sur un petit piédestal fait de calomnies, d'injustices, de flatteries et de mensonges auxquels s'adjoindront les vérités. Quand tu seras dessus, tiens-toi bien et cimente-le par ton talent, ton travail et ta bonté. Sache vouloir. Tous les méchants qui, malgré eux, ont apporté les premiers matériaux de ta gloire, tenteront de les disperser. Mais si tu le veux, ils seront impuissants. Tu as la soif ambitieuse de la gloire, ma chère Sarah.
La volonté seule aidera à la satisfaire. Voilà bien la vérité.
Quand toute autre profession, une fois qu'une certaine situation a été acquise, une fois qu'un certain courant des choses a été organisé, l'homme peut s'accorder un repos relatif. Ici, la tension nerveuse ne cesse jamais. L'effort physique et l'effort intellectuel se superposent et se confondent. Pour être un bon comédien,
pour remplir la carrière d'un Talma,
d'un Kane, d'une Rachel, il est nécessaire d'avoir une âme fortement trempée de ne s'étonner de rien, de recommencer à chaque minute la tâche pénible qu'on vient à peine de terminer.
À passer ainsi d'un rôle à un autre, à enjamber les siècles,
à figurer Brutus après avoir personnifié César, ou Juliette après avoir incarné Macbeth, à se doter des sentiments d'innombrables individualités et à les exprimer alternativement, il y a une lassitude faite pour ployer les plus vaillants. Sans doute, ils sont soutenus par la joie prestigieuse de la création. Ils retouchent terre en prenant une personnalité nouvelle. Ils vivent dans un monde de passions qui surexcite leurs forces vitales et qui les soulève au-dessus d'eux-mêmes. Mais si la volonté n'intervenait pas, si dans leur formation de tel ou tel caractère, ils n'étaient pas soutenus à la fois par leur haute conscience de leur art et par une décision à toute épreuve, ils seraient bien souvent tentés de s'en tenir au rôle déjà acquis. Or, l'artiste qui ne se renouvelle pas, qui ne peut s'adapter à toutes les exigences, qui n'évolue pas avec la littérature dramatique elle-même, celui qui se confinerait dans les poètes grecs ou dans Molière ou dans Shakespeare, quelque immuable que fût déjà le cadre, ne remplirait pas toute sa tâche. Il doit être prêt à se jeter dans les fictions les plus modernes, à les servir de la plénitude de son talent. À la différence de ces savants qui poursuivent toujours leurs recherches sur le même objet et dont les travaux deviennent quasi automatiques, il doit avec intrépidité sacrifier à chaque instant la routine acquise, le repos auquel il se croyait des droits pour s'ouvrir à de nouvelles études. L'art n'a pas d'âge, l'artiste n'en saurait avoir, et ce n'est pas par l'indolence ou la complaisance à soi-même, c'est par la possession entière, par la maîtrise de sa personnalité, qu'il s'élèvera seulement à la gloire suprême des hommes dont la vie est toute création, tout labeur et toute ardeur. Le naturel. Les grands comédiens ont toujours valu par le naturel qu'ils apportent dans leur jeu. L'amour de la vérité ne s'exprime pas seulement à notre époque dans toute œuvre d'art digne de ce nom, et le public ne souffrirait pas qu'on lui fardât la réalité. Les conventions, les allures affectées, qui pouvaient être de mise à certaines époques, ne le seraient certes plus à la nôtre. L'art dramatique a accompli de ce côté de remarquables progrès au cours du dernier siècle. Mais qu'entend-on par « naturel » ? De même que l'art littéraire ou pictural dissimulera certains objets qui ne sauraient être mis sous les yeux du lecteur ou du visiteur, le comédien ne saurait froisser la pudeur de ceux qui l'écoutent. Un art quelconque ne se comprend pas sans un choix éclairé. Il est inutile d'être naturel avec brutalité. Ce qu'il faut à l'artiste, ce qu'on attend de lui, c'est qu'en observant des minimums de bienséance, il manifeste les sentiments qui doivent l'agiter, comme les manifeste dans la réalité la moyenne de ses contemporains. Et ici s'affirme une fois de plus la nécessité d'une étude approfondie. Être naturel ne signifie point qu'on rendra les passions à la façon de son époque en toutes circonstances et en tout sujet. De même que le comédien est tenu, pour composer son jeu, de connaître à fond le caractère du personnage, de même il doit se dire que la sensibilité n'est pas invariable dans tous les siècles et dans tous les lieux. La douleur du vieil Horace ne peut s'exprimer comme celle de l'avare à qui on a volé sa cassette. La fureur de la vengeance ne se traduira pas chez le noir Othello comme chez tel mari de la comédie moderne qui aura surpris la trahison de sa femme. Aussi le naturel est-il inséparable de l'étude. Mais ce qui est indubitable, c'est que le naturel comporte des qualités antérieures à toute étude, des qualités innées en quelque sorte. Celui qui est impuissant à éprouver des passions fortes, à être secoué par la colère, à vivre toute la vie, ne sera jamais un bon comédien. Mais cela m'amène à parler de l'extériorisation de l'individualité sur laquelle je reviendrai plus loin. Être naturel, c'est chasser les allures invariables qu'adoptent fréquemment les comédiens, croyant plaire au public et qui finissent par devenir chez eux de simples tics. C'est exclure tout ce qui est rigide et permanent pour se plier aux innombrables vicissitudes de l'existence. C'est se pénétrer de la condition sociale de chaque personnage pour le remettre dans son milieu authentique. Chaque classe, chaque catégorie d'hommes, se distingue de la classe ou de la catégorie voisine. Il faut que le spectateur retrouve sur la scène ses manières caractéristiques et la reconnaisse à première vue. Mais le vrai comédien se distingue surtout dans les grandes crises de passion. Il n'y a pas qu'une façon de figurer l'affliction, ni qu'une seule représentation de la colère poussée au paroxysme. Rien n'est plus malséant que de jouer d'après une formule toujours répétée, d'avoir un rire prêt à s'adapter à tous les personnages, ou un mode de mourir qui subsistera dans toutes les fictions dramatiques. La nature, qui n'a pas fait deux êtres semblables, exige l'incessante diversité. Il est vrai que plus on s'efforce de définir le naturel, et plus on s'aperçoit de la difficulté de l'enfermer en une simple et brève formule. Depuis des siècles et des siècles, les artistes de tout ordre discutent sur ce grave problème. Mais en tout cas, il est possible, il est permis de présenter un critérium qui est peut-être cruel, qui n'en est pas moins valable. Lorsque le public populaire sera secoué jusqu'aux larmes par la douleur de l'acteur, lorsque, oubliant la convention théâtrale, il s'imaginera assister à un drame réel, le comédien saura qu'il a atteint au but de son art. Il pourra se dire qu'il a été naturel, car ce n'est jamais en usant de gestes maniérés qu'on frappe un auditoire et qu'on enfonce en lui l'émotion. La sensibilité. Le naturel ne va point sans une réelle puissance de l'artiste à extérioriser sa personnalité. Il faut en quelque sorte qu'il s'oublie lui-même, qu'il se dévête de ses propres particularités pour revêtir celles de son rôle. L'émotion même du moment, la joie ou la douleur, née des événements de la journée, il doit les oublier. Et c'est parce que je ne tiens pas un assez grand compte de cette obligation que je ratais, ainsi que le dit Sarcey, un de mes débuts à la Comédie-Française. De la scène, j'avais vu ma mère, très malade d'une affection du cœur, quitter sa loge précipitamment. Elle était d'une pâleur mortelle. J'avais la sensation, en la voyant sortir, qu'elle allait avoir une de ces crises qui mettaient sa vie en danger. Durant tout le premier acte, on jouait Mademoiselle de Belle-Île, je ne pus que jeter les mots les uns après les autres et bredouiller les phrases sans en comprendre le sens. Le public ne peut se douter du martyre des pauvres comédiens qui semblent là, présents en chair et en os, tandis que faisant les gestes et disant les mots, ils ne peuvent retenir leurs pensées angoissées de s'envoler près de l'être chéri qui souffre. Il faut jeter à bas les ennuis, les soucis de la vie, pour quelques heures dépouiller sa personnalité, et l'on marche dans le rêve d'une autre vie, oubliant tout. Mais le peut-on lorsqu'un être aimé se débat sur son lit de douleur? L'angoisse affole le cerveau qui vit deux vies, bouscule le cœur qui bat à se rompre. Mon amie, Madame Guérard, était partie aux nouvelles. Le public, ne sachant pas ce qui se passait, commençait à se fâcher. Cela m'était tout à fait égal, je pensais à autre chose. Je disais les mots de Mademoiselle de Belle-Île, rôle stupide et assommant, mais j'attendais, moi, Sarah, des nouvelles de maman, et je guettais le retour de Guérard à laquelle j'avais dit « Entr'ouvre la porte, côté jardin, aussitôt que tu seras de retour, et fais comme ça, avec la tête, si ça ne va pas mieux, et comme ça, si ça va mal. » Mais je ne me souvenais plus de quel « comme ça » il était question pour indiquer le mieux, et quand je vis mon ami, à la fin du troisième acte, entr'ouvrant la porte et remuant la tête de bas en haut comme pour dire « oui », je devins complètement idiote. C'était pendant la grande scène du troisième acte, quand Mademoiselle de Belle-Île reproche au duc de Richelieu, Bressan, de la perdre à tout jamais. Le duc répond « que ne disiez-vous que quelqu'un nous écoutait, que quelqu'un était caché ?» Je m'écriais « c'est Guérard qui m'apporte des nouvelles !» Le public n'eut pas le temps de comprendre, car Bressan escamota la réplique et sauva la situation. Je fus rassuré pendant l'entracte et je repris toute mon assurance durant le dernier acte. Mon succès tout relatif grandit à chaque représentation suivante et devint tel qu'on m'accusa d'entretenir à ma solde une claque bruyante. Il n'en est pas moins vrai que je n'avais pu dissimuler pendant plusieurs actes l'inquiétude affreuse qui me minait et que j'avais failli compromettre mon propre succès et celui de la représentation. J'avais manqué de force de caractère et oublié passagèrement un des premiers devoirs du comédien. Si celui-ci garde ses façons de vivre, de penser et d'agir au travers des figures diverses qu'il incarne successivement, naturellement plein de douceurs et de mansuétudes, il ne peut vivre la passion d'autrui s'il ne peut insérer dans sa conscience les sentiments qui furent ceux de ses héros, si violents soient-ils, si vindicatifs et si cruels qu'ils paraissent. Il ne sera jamais qu'un mauvais comédien. La froideur sera son fait, mais non l'ardeur impétueuse qui emporte une salle et qui est le trait du génie. s'il n'éprouve réellement la douleur de l'amant trahi ou du père déshonoré, s'il ne se soustrait temporairement à la médiocrité de son existence pour se jeter tout entier dans les crises les plus aiguës, il ne touchera personne. Comment frapperait-il ou convaincrait-il autrui de son émotion, de la sincérité de ses passions, s'il ne sait se convaincre lui-même au point de devenir le personnage même qu'il doit représenter? Je ne puis que répéter ici l'exemple de Coquelin, insensible aux passions des personnages dramatiques qu'il représentait. Le public lui-même restait insensible. Coquelin s'en étonnait, bien à tort, mais la sensibilité ne s'acquiert pas. L'artiste doit être un de ces plateaux sonores qui vibrent à tous les vents qu'une brise légère agite. Si la colère ne le brise point, si la pitié ne l'atteint pas au fond de lui-même, il semblera insipide. Le public se souviendra qu'il est au théâtre, qu'il a devant lui un héros artificiel, que dans une heure, deux heures, la scène sera finie et qu'il retrouvera, après avoir quitté un décor factice et somptueux, la banalité de son foyer. L'émotion cherchée n'aura point été acquise. La résurrection attendue n'aura pas eu lieu. L'auditoire, qui sera demeuré insensible au jeu de l'acteur, dont le plaisir artistique sera resté nul, se plaindra non sans raison d'avoir été trompé. Il n'est donc point d'artiste digne de ce nom sans un dédoublement incessant de la personnalité. Les grandes comédiennes ont pleuré comme Juliette ou comme Andromaque, souffert les ardeurs de l'amour sauvage comme Phèdre ou Hermione, subi les effrois du remords comme Macbeth. L'égarement d'Hamlet ne sera touchant, ne fera frissonner les spectateurs que si vraiment l'acteur se sent Hamlet. Car ne croyons point qu'on puisse avoir une âme pour le dehors et conserver la sienne. Ne nous imaginons pas un instant qu'on puisse créer un extérieur artificiel en gardant intact ses sentiments ordinaires. Le comédien ne peut se partager entre lui-même et son rôle. Il perd son « moi » durant tout le temps où il se tient sur la scène. Et ainsi sa conscience vole d'âge en âge, de peuple en peuple, de couche sociale en couche sociale, de héros en héros. C'est une lassitude écrasante qu'il assume. La tâche est surhumaine qu'il entreprend s'il veut la remplir dans sa plénitude et se rendre digne de l'art qui est le sien. Il faut qu'il revive la pensée du poète, du dramaturge, qui lui aussi déserte son époque et son milieu pour émigrer vers l'époque et le milieu de ses créations. Lorsque Shakespeare écrivait Le Mort de Venise ou Shylock, il n'était plus un Anglais de son siècle. Il avait transitoirement dépouillé le vieil homme pour s'animer de toute la passion d'un arabe jaloux ou de toute la cupidité d'un usurier fanatique. Il n'oubliait pas seulement les préoccupations matérielles ou morales qui pouvaient l'assaillir quelques minutes auparavant, mais par la pensée sur les ailes de l'imagination, il s'était transporté vers d'autres cieux. La faculté d'imagination, qui est la faculté maîtresse du poète, il faut que le comédien se l'assimile, que dans son cerveau passent à son appel les idées les plus disparates, qu'elles soient assez vives pour effacer toutes les autres, et concentrer autour d'elles toutes les forces intellectuelles et effectives. C'est à ce titre que l'acteur est lui aussi un poète, un créateur aussi grand que l'autre. Ici se termine la deuxième partie de L'art du théâtre de Sarah Bernard, enregistrée par Christiane Jehan.